Question sans question par Étienne Klein. Aujourd'hui, les théories d'Einstein aident-elles à comprendre le cerveau ? Le 12 avril 2013, inaugurant le projet de recherche appelé Brain, autrement dit le cerveau en bon français, Barack Obama déclarait ceci. L'humanité est parvenue à identifier des galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière d'ici, à étudier des particules bien plus petites qu'un atome, mais elle n'a toujours pas élucidé le mystère de ce kilo et demi de matière qui se trouve entre nos deux oreilles. Fin de citation. Presque 10 ans plus tard, ce constat demeure en grande partie vrai. Mais se pourrait-il que la relativité générale, c'est-à-dire la théorie de gravitation mise sur pied par Einstein en 1915, nous aide à comprendre le fonctionnement du cerveau ? En d'autres termes, peut-être plus limpides, pourrions-nous établir un pont conceptuel entre la délicate physique de l'espace-temps et le vaste domaine des neurosciences? Je sais bien que même dit comme cela, cela fait un peu bizarre. Mais nous allons y voir plus clair grâce à notre invité d'aujourd'hui. Bonjour Denis Le Bihan.
Bonjour Étienne.
Vous êtes médecin et physicien, ce qui n'est pas banal. Vous êtes membre de l'Institut et vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître, qui s'intitule « L'erreur d'Einstein », avec comme sous-titre « Aux confins du cerveau et du cosmos ». Et dans ce livre, vous commencez par rappeler votre formation qui est double, je l'ai dit. Vous êtes à la fois physicien et médecin, et vous avez mené ces deux études de front en même temps. Comment c'est possible ?
Alors, c'est pas facile. Bon, je suis pas le seul quand même à avoir cette double qualification, si on peut dire. En fait, très tôt dans ma vie, si j'ai bonne mémoire, j'ai dû avoir 5 ans, j'ai vu un film à la télévision qui représentait un documentaire de radiologie. Je vois encore les images, mais bien sûr, mes parents m'ont dit ça t'avait tellement impressionné que tu avais décidé de devenir médecin. Donc, toutes mes études, je voulais être médecin. Et il se trouve que mon grand-père, qui était jardinier, j'avais pris un livre qu'il avait chez lui, ça s'appelait L'Almanach Vermeaux, et dedans il y avait des phrases du genre « si le soleil est rouge le soir, il va faire beau le lendemain ». Ça m'intriguait beaucoup. Et c'est comme ça que je me suis mis à comprendre la météo. J'avais 12 ans, 11, 12, 13 ans. Et donc, aller fouiller les livres et apprendre par moi-même toute la physique qui va derrière, voir les mathématiques. Ça fait qu'après, au lycée, c'était un peu facile. C'est comme ça aussi que j'ai fait connaissance avec les théories de la relativité d'Einstein. J'avais 14, 15 ans. Et arrivé à la fin du lycée, le dilemme pour moi, c'était où est-ce que je vais, en médecine ou en classe préparatoire pour intégrer un cursus physique. J'ai choisi médecine et au bout d'un an, je ne veux pas dire que je me suis ennuyé, mais la physique me manquait. Donc je me suis inscrit aussi en physique et j'ai fait mes études en temps partagé. Je suis devenu interne en neurochirurgie, puis en radiologie, tout en faisant, donc avec une alternance d'une année sur deux, un cursus de physique des particules à Orsay. Donc voilà. Et ma chance, vraiment j'ai eu beaucoup de chance, c'est que dans les années 80, l'IRM est arrivé.
La résonance magnétique.
L'imagerie par résonance magnétique. Ce qui m'a permis d'aller à fond dans ce que je voulais faire en physique et d'explorer le cerveau sans y mettre mes doigts, comme je l'aurais fait en tant que neurochirurgien, ce que j'ai fait en tant que neurochirurgien, mais finalement de comprendre beaucoup plus le fonctionnement du cerveau.
C'est-à-dire
j'ai donc
étudier
beaucoup de
le cerveau avec des moyens physiques.
Avec des moyens physiques.
Alors j'ai une première question, puisqu'on va beaucoup parler de cette théorie d'Einstein, la relativité générale qui occupe une grande part dans votre livre. Qu'est-ce que vous avez ressenti avant-hier, le 12 mai 2022, lorsqu'a été montrée la première image du trou noir supermassif qui est au centre de notre galaxie, la Voie lactée?
J'ai eu les larmes aux yeux.
Carrément.
J'ai écouté en direct la conférence qui a été donnée. Je savais, parce qu'on s'attendait tous à ce que...
Vous en parlez beaucoup dans le livre, avant que le résultat soit obtenu.
Vous parlez des
méthodes.
C'est parce qu'il y a eu un autre trou noir qui a été vu à M87 il y a quelques années, le prix Nobel qui
en a 2020.
En 2020, absolument. Donc on s'attendait, ils travaillaient déjà. Mais pour moi, c'est quand même la plus belle démonstration de la théorie de la relativité d'Einstein, ça et les ondes gravitationnelles, ça colle exactement avec la théorie, mais il faut voir ce qui va derrière, c'est-à-dire l'empire technologique qu'il a fallu mettre en place sur la planète entière.
4 ans de calcul.
4 ans de calcul.
De simulation.
Internet étant dépassé, les données sont envoyées sur des disques durs dans des
avions.
Ouais. Non mais c'est fou. Donc quand on voit ça, et puis la jeune, maintenant elle est plus postdoc, mais la postdoc de l'époque, Louise Boumann, qui elle a mis en place l'algorithme donc au MIT, quand elle a présenté, oh, c'était extraordinaire de l'avoir présenté son projet, quoi. Donc c'est elle qui a parlé aussi.
Vous saviez qu'on pourrait voir l'image d'un trou noir de cette façon, alors qu'entre lui et nous, il y a 26 000 années-lumière de distance, avec beaucoup de poussière, de gaz qui viennent absorber la lumière.
Oui, parce qu'en fait, c'est pas de la lumière. C'est, on nous montre une image, parce que notre cerveau humain ne sait voir que des images.
C'est des ondes radio.
C'est des ondes radio, hein, attention.
Mais c'est de la lumière.
C'est de la lumière sur le plan physique, mais c'est pas des, c'est pas là. C'est-à-dire cette image où on voit un trou noir et puis de l'orange autour, c'est une reconstruction totale pour que le cerveau humain puisse la comprendre. Hein. Attention, ça c'est dans mon livre, je parle beaucoup de ces biais cognitifs. On ne peut voir que ce que notre cerveau sait voir avec notre corps. Donc en fait, l'image du trou noir, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ça c'est le rendu pour l'humain qui doit regarder ce qu'on lui montre.
En tout cas, c'est pas une photo.
C'est pas une photo, exactement. C'est pas une photo.
Le trou noir n'émet pas de lumière.
C'est pas une photo.
Alors, le point important, c'est cette théorie de la relativité générale, Denis Le Bihan. Comment est-ce que vous la présenteriez si vous deviez le faire comme aujourd'hui en 5 minutes?
La relativité générale en physique ou en cerveau?
En physique, non, on n'en est pas au cerveau.
On n'est pas encore au cerveau.
On en est à Einstein, tout simple.
Donc, en gros, d'abord, il y a deux théories, la relativité restreinte et la relativité générale, hein, d'accord. Donc, il faut voir.
Celle de 1905 et celle de 1915.
Voilà. Donc, quand même, il faut partir de l'idée de départ qui est la relativité restreinte, donc, qui fait apparaître un espace-temps. C'est un concept qui était nouveau à l'époque, même si c'est Minkowski qui l'a en pratique écrit comme ça. Mais qui vient du fait que il y a dans l'univers une constante à laquelle est égale la vitesse de la lumière. Je pèse mes mots, hein, c'est pas la vitesse de la lumière qui est une constante, c'est que la vitesse de la lumière est égale à une constante de l'univers. Et à cause de ça, comme la vitesse de la lumière ne peut pas changer, quelle que soit la direction dans laquelle on observe, le temps devient relatif. Il y a un espace-temps. Voilà. Donc ça, c'est 1905. Le problème ensuite, c'est qu'Einstein s'est aperçu que, il y avait un gros problème. Les équations de Newton, la gravité, faisaient que, Si nous, aujourd'hui, si le soleil disparaît d'un seul coup, il va falloir 8 minutes avant qu'on s'en aperçoive, parce qu'il faut qu'il y ait une propagation, d'une part des ondes lumineuses, mais aussi des ondes de gravitation. Alors que Newton, c'était instantané. Donc pour Einstein, non, c'est pas possible, ça peut pas être instantané. Donc il y avait quelque chose qui clochait. Et il a fallu quand même 10 ans pour arriver à petit à petit, trouver que le moyen d'expliquer ça, c'était que l'espace-temps devait être courbé, et que c'était la courbure qui était responsable de la gravitation. Autrement dit, il n'y a plus de force. L'exemple qu'on trouve dans beaucoup de livres, mais si vous vous mettez sur un trampoline, vous allez déformer le trampoline. Vous mettez une bille ou une boule de billard sur le côté du trampoline, elle va venir rouler à vos pieds. Mais vous ne l'avez pas attirée. Voilà, c'est la courbure qui est responsable.
Donc la gravitation est une déformation de la géométrie.
Une déformation de l'espace.
Et donc une force qui s'exerce au travers de l'espace.
C'est ça.
Alors vous dites 10 ans pour que Einstein développe cette théorie. En fait, c'est 8 ans, puisque c'est en 1907 qu'il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie.
Oui, c'est horrible.
Vous rappelez dans votre livre.
Oui, c'est horrible comme histoire.
En fait, il comprend qu'une personne en chute libre ne sent pas son poids.
C'est ça.
Puisque tous les corps tombent à la même vitesse. Si on tombe avec une bouteille d'eau dans la main, on lâche la bouteille.
C'est ça.
Elle tombe à la même vitesse que nous. Et donc, par rapport à nous, elle est en lévitation, elle flotte.
Elle flotte.
Et la gravitation qui est la cause de la chute semble être annulée par le fait qu'on tombe. Alors.
C'est important parce que jusqu'à Einstein, la masse qui fait qu'on a un poids sur notre balance et la masse inertielle, c'est pas forcément la même chose. Or, son intuition, c'est que la masse qui donne notre poids, parce qu'on est, c'est la gravitation, et la masse qui fait que dans un virage on est projeté à gauche ou à droite, pourquoi c'est la même chose?
La masse grave et la masse inertielle.
C'est ça. Pourquoi est-ce que c'est la même chose? Ça a l'air évident, mais ça l'est pas du tout. Donc.
Et lui, il part du principe que c'est absolument identique.
Il le montre très facilement. Les équations sont ultra simples. Okay. Et il en arrive à dire, donc, la gravitation est une accélération. C'est le principe d'équivalence, 1907. Et c'est, voilà. Donc, on peut dire que c'est de 1907 à 1915 qu'il a développé donc ça fait 8 ans, je suis d'accord. Mais en fait, c'est quand même l'espace-temps de 1905, voilà.
Alors, dans votre livre, vous développez tout cela avec beaucoup de précision et au milieu d'un chapitre, vous montrez une reproduction du tableau de Van Gogh qui s'appelle La nuit étoilée.
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait là? Oui. Dans le livre, pourquoi vous avez éprouvé le besoin de le
mettre? Alors, en fait, il y a trois tableaux dans mon livre.
Oui, il y a aussi Picasso.
Picasso, c'est, je peux,
allez-y.
C'est très intéressant. Donc, En 1905, donc Einstein produit la théorie de la relativité, mais il y avait d'autres personnes qui travaillaient sur le temps, et en partie Poincaré, qui était à deux doigts de trouver la relativité, il faut quand même le reconnaître. Voilà. Et donc, on commençait à avoir des idées sur le fait que la simultanéité, c'était un problème, etc. Donc, Picasso, au bateau Lavoir, avait des amis, et avait une maîtresse qui était aussi à coquiner avec un physicien. Et c'est comme ça qu'il y a eu le travail de Poincaré, qui est arrivé aux oreilles de Picasso. Et sur une toile c'est à deux dimensions, on reproduit la troisième dimension avec la perspective, etc. Mais comment reproduire la quatrième dimension? Donc l'exemple que je donne, c'est que si vous regardez quelqu'un de face et de profil, vous pouvez dire c'est la même personne. Et comment est-ce que vous y arrivez? Parce que mentalement, vous devez faire une rotation entre la face et le profil. Et cette rotation prend du temps. Ce n'est pas simultané, vous ne pouvez pas voir les deux en même temps. Donc Einstein s'est dit, Picasso s'est dit, je vais faire quelque chose. Il a 800 esquisses hein, dans son petit cahier là, et il arrive à mettre un visage à la fois de face et de profil. Donc c'est une simultanéité spatiale.
Il fait coexister deux faces qu'on ne peut pas voir en même temps.
Voilà. Et ça, c'est le cubisme. Le cubisme est parti de là. Donc voilà pourquoi Picasso est dans mon livre. C'est parce qu'en fait, il fait le lien entre la physique et le cerveau. Alors, pour l'autre tableau, effectivement, c'est un peu plus subtil. C'est simplement que le ciel et les lignes qui sont dans ces tableaux sont courbes. Et comme l'espace-temps est courbe, je me dis peut-être qu'il avait l'intuition que notre espace-temps cérébral serait courbe aussi. Bon, c'est purement un jeu de mots, si vous voulez, mais c'est pour ça que je l'ai mis. Et le troisième tableau, mais vous n'êtes pas en parler parce que ça nous entraînerait trop loin, c'est celui sur la leçon d'anatomie, avec la dissection, le rôle de la main. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas tout dire.
Alors, vous savez mieux que personne qu'Einstein est mort en 1955, et quand il est mort, on a cru bon de récupérer son cerveau, oui. La découper en rondelles avec oui. L'espoir que l'analyse de ces différentes lamelles allait permettre de mieux comprendre le génie. Mais vous, c'est l'inverse. Vous pensez que ce sont les théories d'Einstein qui vont permettre de comprendre
absolument,
le cerveau.
Absolument.
Y compris celui d'Einstein qui était, paraît-il, tout à fait banal.
Il était pas banal, il était plus petit que les autres.
Plus léger que la moyenne, oui. Alors, venons-en. C'est la deuxième grande partie de votre livre. Au cerveau. Alors, il y a un quantum dans le cerveau qui s'appelle le neurone. Depuis quand le sait-on et qui l'a découvert?
Alors, oui, ça aussi c'était une révolution, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Einstein, on a parlé de Picasso, et maintenant on va parler de Cajal. Tout ça, c'est à peu près en même temps. Hein. Je vous rajouterai en musique de Debussy et Ravel.
Hein, début 20e.
Il y a quelque chose qui s'est passé là. Il y a peut-être dans le ciel, je sais pas.
Une crise généralisée de la représentation.
Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Cajal a, donc, sous son microscope, il a regardé des coupes du cervelet, qui est une expansion neurologique, enfin, du système nerveux central qui est en dessous le cerveau. Et il a dit, encore, ça se voyait pas bien, hein, mais les cellules du cerveau ne constituent pas un continuum comme dans le foie. Voilà. C'est pas comme ça. C'est que les neurones, donc les cellules du cerveau, sont séparées par des petits espaces qui vont être appelés beaucoup plus tard les synapses, hein, donc les fentes synaptiques. Mmh. Et donc, il a introduit le concept de neurones comme élément, comme cellule élémentaire du fonctionnement du cerveau. Et pour ça, il a utilisé une technique de coloration des cellules, qui est la cellule de Golgi. Donc, Golgi et Cajal ont eu le prix Nobel ensemble. Les Golgi croyaient pas du tout à ce que les neurones soient. Donc, ils se sont un peu chamaillés pendant leur discours Nobel. Mmh. Voilà. Mais c'est parti de là. Donc, le neurone existe depuis les travaux de Cajal.
Et les axones?
Les axones aussi, donc ce sont les. En gros, un neurone, ça ressemble, alors il y a plein de formes différentes, ça ressemble un peu à une étoile, voilà, et ça va émettre un long filament qu'on appelle l'axone, qui peut être très très court, mais qui peut faire plusieurs mètres. Hein, si vous voyez entre le cerveau de girafe et la moelle épinière de girafe, ça fait quand même une bonne longueur. Par exemple, dans notre moelle épinière, ce sont des axones que l'on a qui viennent du cerveau et qui sont responsables du fait qu'on peut sentir et qu'on peut bouger. Voilà. Bien sûr, la moelle épinière, il y a aussi des neurones, hein, mais voilà, les axones, ce sont les fils électriques du cerveau.
Denis Le Bihan, il ne vous a pas échappé comme à moi-même, comme à tout le monde, que la plupart de nos organes existent par paires. Nous avons deux reins, deux yeux, deux oreilles, deux mains, etc. Est-ce que ça a un sens du point de vue darwinien que tous ces organes aient été dédoublés. Est-ce que c'est pour pallier une déficience de l'un d'entre eux?
J'avoue que comme Einstein fréquentait peut-être Dieu, mais pas moi, donc je n'ai pas la réponse à cette question, mais on peut effectivement penser qu'il y a un avantage pour la survie d'avoir des organes en double. Maintenant, le foie, il n'y en a qu'un, hein, donc le cœur, il est en double, mais les cavités gauche et droite n'ont pas exactement le même rôle. Et dans le cerveau, il y a deux hémisphères.
Il y a deux hémisphères qui n'ont pas le même rôle.
Ils n'ont pas le même rôle. Donc et ça, c'est une question très intéressante.
Si l'un tombe en panne, l'autre ne prend pas la relève.
Oui, et si ça peut arriver, que l'autre prenne en charge. Si vous avez, malheureusement, ça peut arriver, un enfant très, très, très bas âge qui a un AVC, ou qui doit être opéré parce qu'il a une tumeur qui lui donne une épilepsie. Donc, en général, quand vous retirez une partie du langage, une partie qui est liée aux régions du langage, vous perdez le langage chez l'adulte. Eh bien, l'enfant, donc le langage est plutôt du côté gauche, peut récupérer, et on voit sur nos images d'IRM que le langage s'est transféré à droite. Donc en fait, il y a une plasticité cérébrale, mais il faut que ça se passe très 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 haut dans l'existence.
Mais toutes les cellules du foie, par exemple, font le même travail, quelle que soit leur position dans l'organe, ce qui n'est pas le cas du cerveau.
Non.
Où il y a des spécialisations qui apparaissent, il y a des zones, il y a des...
C'est ça.
Depuis quand est-ce qu'on le sait, et qui était ce monsieur qu'on appelait Tantan?
Alors, on dit, c'est vrai, mais en fait, c'était Le Borgne, c'était le nom du malade, ouais. T'entends. Et c'est Paul Broca, le chirurgien qui était à Bicêtre, qui a fait cette publication. Mais bon, il semblerait que d'autres aussi l'avaient observé. Donc, il a observé que ce patient qui s'appelait Tantan, c'est le surnom qu'on lui donnait, parce qu'en fait, quand on lui demandait comment vous appelez-vous, Tantan, quel âge avez-vous, voilà, il y avait que ça qui sortait. Et donc, le génie de Broca, ça a été le patient est décédé, de disséquer le cerveau. Il a observé qu'il y avait une sorte de trou, j'ai caricature, hein, une lésion, et qu'elle était dans l'hémisphère gauche et vers l'avant du cerveau. On aurait pu dire, comme dans le foie, une tumeur, elle est là, et puis terminée. Non, Broca a dit, c'est parce que cette lésion est dans l'hémisphère gauche,
à cet endroit,
que le patient ne pouvait plus parler, il était aphasique. La lésion aurait été ailleurs, ou dans l'hémisphère droit, il aurait pu parler, il aurait eu autre chose. Voilà. Donc c'est le début de cette connaissance que le cerveau est organisé en régions, et c'est le début de toute la recherche qui a été faite sur ce qu'on appelle les cérébraux lésés, donc les patients qui avaient des lésions et que on attendait leur décès. Malheureusement, à l'époque, c'était assez fréquent. On disséquait le cerveau. On a donc pu faire un catalogue des régions.
Une cartographie
des régions cérébrales. Et ça s'est vraiment développé beaucoup plus tard avec Pinfield, un neurochirurgien canadien, qui lui, pour des raisons de neurochirurgie, devait réveiller ses patients pendant qu'ils étaient opérés. On sent rien du tout. Hein. C'est tout à fait possible. Et en stimulant des régions cérébrales, on pouvait voir que le patient nous disait à jouer rouge ou faire bouger ses mains, etc. On faisait ça, on fait encore un peu d'ailleurs, pour être sûr qu'on est au bon endroit dans le cerveau avant de retirer une lésion.
Vous pouvez le commander finalement en...
Non, c'est qu'on regarde où l'on est, c'est-à-dire qu'en faisant une petite stimulation électrique, on vérifie qu'on n'est pas dans un endroit qui est critique. Mais donc, ça a permis d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de chaque région cérébrale fait. En gros, si je peux simplifier, c'est ce qu'on appelle les aires de Brodmann. Alors, les aires de Brodmann, c'est parce que c'est un autre médecin allemand qui a disséqué un demi-cerveau d'une femme âgée. Et qui a, en regardant au microscope, découvert que le cerveau est organisé en régions qui ont des neurones de formes différentes, de densités différentes, d'organisations différentes. Donc il a identifié une soixantaine d'aires d'aires qui s'appellent les aires de Brodmann et qu'on utilise toujours aujourd'hui pour se placer dans le cerveau. Donc c'est grossier, mais c'est la méthode de référence. Donc on sait que le cerveau est organisé en régions sur le cortex. Donc, tout ça, c'est des éléments fondamentaux qu'on a tendance à négliger parce que, c'est acquis. Mais donc, c'est la surface du cerveau, ce qu'on appelle le cortex, qui a toutes ses fonctions. Donc, c'est comme si on avait un alphabet de fonctions différentes, certaines liées à la vision, à la motricité, au langage. Et même dans la vision, vous avez des tas de sous-régions capables de détecter des choses plus fines. Voilà, donc en fait, le cerveau, c'est un assemblage de régions qui ont chacune des rôles différents.
Et Denis Le Bihan, quand est-ce qu'est apparu, est-ce qu'on le sait d'abord, cette fameuse latéralisation du cerveau?
Non.
Le fait que l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit n'aient pas les mêmes fonctions.
Non, c'est arrivé un jour, et puis c'est pourquoi.
C'est une sorte de brisure de symétrie, comme dirait un
physicien. Il y a une brisure de symétrie, absolument. Il y a une brisure de symétrie. Et bon, ce qu'on sait, c'est que le fait que la plupart des gens sont droitiers, mais le côté droit du corps est commandé par le cerveau gauche. Là encore, c'est peut-être pour des instants de survie. Oui, des instants de survie.
Comment ça? Parce que si quelqu'un arrive à gauche, on part à droite, c'est ça?
Ben, par exemple. Voilà. Par exemple. Ou bien parce que s'il y a une atteinte...
C'est le cerveau gauche qui se rend compte qu'il y a une agression.
Voilà, vous voyez arriver à gauche...
C'est le bras droit ou la jambe droite.
Par exemple, j'en sais rien, hein, c'est, j'imagine. Mais voilà, donc ça peut être aussi... Mais ce qui est, ce qui est sûr...
Les gauchers seraient désavantagés, alors.
Eh ben voilà, moi j'ai la chance d'être ambidextre, donc je ne sais pas de quel côté je partirais.
Non mais vous parlez à un gaucher, là, faites attention.
Ah d'accord, oui, il faut faire attention. Donc la plupart des gens, 85% en gros, sont droitiers. Donc... aussi le langage du côté gauche. Donc le fait d'être droitier et d'avoir le langage du côté gauche serait lié. D'ailleurs, dans le langage français, on parle de maladroit, hein, ou d'être gauche. C'est très péjoratif. Hein.
Ça m'a jamais plu.
Comment ?
Ça m'a jamais plu.
Ben, je m'en doute, mais c'est pas par hasard. La sinistrose, hein, en latin, sinistre et à gauche aussi. Voilà. Donc on ne sait pas pourquoi, mais il y a peut-être un lien entre dextérité et langage. Mais on n'en sait pas, on n'a aucune réponse.
Daniel Dubignan, vous dites dans votre livre que c'est une phrase qui m'a fait réfléchir et je veux être sûr de l'avoir bien comprise. Vous dites « L'espace physique est encodé dans l'architecture de notre cerveau ».
Oui.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que c'est l'espace lui-même qui est encodé ou est-ce que c'est simplement notre perception de l'espace qui est codé
dans
le cerveau?
Non, c'est vraiment physique. Alors je ne parle pas de l'espace-temps, hein, pour l'instant d'Einstein, je parle de l'espace standard. Ouais. Donc, quand vous, on va prendre l'exemple simple. Quand vous regardez devant vous, ce que vous voyez en haut va se projeter dans le cortex cérébral visuel en bas. Ce que vous regardez à gauche va arriver à droite. Un peu comme sur un... Je n'avais pas pu parler de plaque photo, mais CDD à l'arrière d'un appareil photo. Donc il y a une inversion. Donc déjà il y a ça, et en fait ce qu'on appelle c'est la rétinotopie, à savoir donc l'espace que l'on regarde est projeté à l'arrière du cerveau de façon inversée, mais il y a une bijection, voilà, donc une petite région du cortex visuel code pour une petite région précise de l'espace physique. Alors en fait c'est déformé. Ce qu'on voit au centre est beaucoup, est amplifié. C'est pour ça qu'on lit en regardant droit et on lit pas en mettant un livre sur le côté. Voilà. Donc il y a une déformation, mais c'est comme ça. Mais c'est pareil pour tout. Quand vous touchez.
Là, vous parlez de l'espace perçu.
L'espace. Oui, perçu. Mais je veux dire, si je touche ma main, si je touche mon pied, si je touche ma figure, nous, ce que l'on voit, c'est pas une perception. C'est que si on enregistre avec une électrode, le courant électrique, on voit que ça va arriver à des endroits différents le long du cortex moteur. Et même chaque doigt de la main arrive à des endroits différents. Les guitaristes qui ont des dystonies, ils n'arrivent plus à séparer leurs doigts parce qu'ils ont tellement travaillé mal que le cerveau se mélange un peu les pinceaux, si j'ose dire. Voilà. Donc en fait, l'espace physique est projeté dans... C'est pas une perception, c'est un encodage.
Vous voulez dire que tout ce qui nous permet d'avoir un rapport à l'espace, et à ce qui est dans l'espace, a sa correspondance quelque part dans le cerveau.
C'est plus que ça, c'est que selon la position dans l'espace, ça va arriver à un endroit différent du cerveau.
Ah, c'est l'espace lui-même.
L'espace lui-même qui est encodé. Hein? Donc voilà, donc quand vous regardez, si vous bougez la tête, etc., c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre l'exemple de la sensibilité. Je ne sais pas si tout le monde est capable de le faire, mais je sais que si je prends mon doigt, je le mets sur mon front, je descends.
Ce que vous êtes en train de faire.
Voilà, je suis en train de le faire. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas la même sensation. Je descends le long de ma joue. Là, je sens qu'il y a une autre sensation. Et en fait, ce que l'on sait sur le plan anatomique, alors il y a peut-être un biais parce que je le sais, mais qu'en fait, ça correspond à des racines nerveuses qui ne vont pas au même endroit dans le cerveau. Vous voyez? Donc, ce n'est pas les mêmes racines nerveuses. Donc, il y a bien un encodage de la réalité physique de l'espace dans l'organisation spatiale du cerveau.
Je comprends. Alors, vous racontez une anecdote qui montre que le cerveau des chauffeurs de taxi londoniens, jusqu'à l'arrivée du GPS, n'était pas le même que celui du cerveau des conducteurs de bus.
Ah oui, c'est une étude très célèbre, ça.
Alors, ça vient d'où? Qu'est-ce qui les différencie?
Qu'est-ce qui
explique les différences?
C'est l'apprentissage. J'ai dit au départ que le cerveau était très plastique. Donc, quand vous devez apprendre à naviguer pendant 2 ans sur un vélo dans le brouillard à Londres, vous commencez à connaître la ville par cœur.
Pour passer l'examen qui permet
passer l'examen du chauffeur de taxi. Le bus, lui, il aura toujours la même ligne. Donc, tu sais, bon, moi qui ai fait l'étude, hein, c'est une étude d'IRM qui a montré donc que l'hippocampe, la région qui est un peu le GPS du cerveau, en fait, on l'a su, mais ça, c'est venu après, hein, c'est venu 14 ans après, le prix Nobel pour cela. Donc, l'hippocampe, c'est l'encodage de la mémoire, c'est donc aussi le GPS. Donc, ce qui permet de nous repérer dans l'espace. Donc, les chauffeurs de taxi ont, londonien qui passait cet examen, avec leur hippocampe plus grosse que la population générale. Voilà. Maintenant, depuis qu'il y a le GPS, effectivement, c'est peut-être plus le cas, mais ça n'a pas été vérifié.
Ça veut dire qu'on peut amplifier le volume ou peut-être l'activité alors,
la
de certaines zones.
Non, on va pas la sentir en se peignant, hein, d'accord. mais oui, quand même. C'est-à-dire qu'un musicien, je joue du piano, le musicien a des régions cérébrales où il y a une hypertrophie de la matière grise, une augmentation du volume de la matière grise. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a plus de neurones parce qu'on fait que de les perdre. C'est peut-être qu'il y a simplement plus de connexions. Quand on apprend à jouer un morceau au piano, donc au début on hésite, puis petit à petit ça devient plus ou moins automatique. On peut se consacrer à l'interprétation. Donc la plasticité cérébrale fait que vous avez donc des régions cérébrales qui vont se développer pour répondre à cela.
C'est-à-dire que la pratique permet de connecter des zones, d'établir des connexions qui n'existent pas sans cette pratique.
Et de les stabiliser. Donc il y a aussi ce qu'on appelle des périodes. Donc c'est l'expérience de Hubel et Wiesel, prix Nobel des années 60, terrible sur des animaux, des chats. Donc si on les prive, par exemple, d'un certain nombre de choses, eh bien leur cerveau... Ben, je donne l'exemple beaucoup plus simple des Japonais. Les Japonais ne savent pas distinguer un R et un L. Hein, rond, long, ils entendent don. D'accord ? Par contre, les bébés japonais savent très bien. Alors, comment on sait ? C'est parce qu'on leur met une tétine. On leur dit long, 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 puis à ce coup, on va dire rond, rond, rond. La tétine, ils commencent à sucer un peu plus. Donc, ils ont découvert qu'il y avait quelque chose. Mais le japonais adulte, il va avoir perdu ça, parce que dans le japonais, il n'y a pas de R et de L. C'est la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale fait qu'on apprend, on développe des régions cérébrales au détriment d'autres qui vont disparaître. Il y a des fonctions qui vont disparaître.
On ne peut pas tout avoir.
Semblerait.
Faire des choix.
Voilà.
Alors vous dites, autre phrase qui m'a plu en même temps, qui m'a laissé perplexe, vous dites que le neurone est le transistor du cerveau.
Un petit peu.
Et vous ajoutez que c'est même un piézoélectrique.
Oui, oui.
Donc là, on voit que vous avez une double formation. Est-ce que vos collègues neurochirurgiens ou neurobiologistes utilisent ce vocabulaire ?
Non, mais je l'ai mis dans mon livre pour faire comprendre. On a fait peut-être une erreur, peut-être c'est encore plus compliqué en disant ça.
Ben on va essayer.
Le principe du transistor, c'est que... donc avant les transistors, il y avait des lampes, hein, des tubes électroniques, peu importe. Le but, c'est que c'était... On envoyait des signaux, et avec ces signaux-là, on les amplifie. Donc en fait, le transistor, il reçoit des inputs, on dit en anglais, donc des entrées. Et avec ça, il va faire le tri, il va amplifier et envoyer un output. Donc c'est ce que fait le neurone. Donc on a parlé tout à l'heure du corps du neurone qui était étoilé et de son long axone qui s'en émerge. En fait, donc la partie étoilée, c'est parce que là, on a ce qu'on appelle les dendrites. Les dendrites sont des tas de filaments, un peu comme des racines. Ça ressemble un peu à des racines, si j'ose dire. Et l'axone serait un peu comme la tige. J'ai jamais utilisé cette comparaison, mais c'est vrai que c'est assez poétique. Bref, donc c'est au niveau de ces racines, le neurone va être en contact avec plein d'autres. À la naissance, un neurone est en contact avec en moyenne 500 neurones. À la fin de l'adolescence, chaque neurone peut être en contact avec 10 000 autres neurones. C'est considérable.
On en a 80 millions au total.
À peu près 80 millions, oui.
Moins que les dauphins.
Moins que les dauphins, moins que les baleines, moins que les éléphants.
Ils font tirer quelques complexes ou...
Ah ben, il y a intérêt, puisqu'en fait, je ne sais pas si on a le temps d'arriver là, mais c'est pas les neurones qui comptent forcément le plus, ce sont les connexions.
Donc, on est mieux connectés que les dauphins.
Non, ils le sont mieux que nous. Non, je vous assure qu'il y a de quoi être un peu modeste. Donc en fait, les neurones sentent toutes ces informations qui lui arrivent. Un neurone dessus va faire le tri, si j'ose dire. C'est physique, hein, chimique, moléculaire. Et de là, il va émettre, et ça c'est très important pour la théorie de la relativité, il va émettre des potentiels d'action, c'est-à-dire des impulsions électriques qui vont se suivre à une cadence bien fixée le long de l'axone pour aller informer un autre endroit du cerveau où les muscles qui sont beaucoup plus loin. Donc il va envoyer un train, ce qu'on appelle des potentiels d'action. Et là, il y a deux choses énormes. C'est donc ce train a une fréquence. C'est un peu comme une onde lumineuse. Voilà.
Qui transporte de l'information.
Qui va transporter de l'information, un peu comme des fibres optiques. Et ce train de potentiel d'action va progresser le long de l'axone à une vitesse qui est finie. Autrement dit, c'est pas infini. Le cerveau ne travaille pas avec une vitesse qui serait comme la lumière, elle est finie. Il y a une limite. Ce qui est beaucoup plus compliqué dans le cerveau par rapport à l'univers. Dans l'univers, Einstein a dit que il y avait la lumière avait une vitesse qui était égale à cette constante et puis elle était unique dans tout l'univers. Dans le cerveau, c'est pas le cas. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces filaments, ces axones, ont une taille variable. Certains sont très fins, d'autres sont très gros. Parce qu'en tour, ils ont un isolant. Et là, c'est aussi physique, mais c'est contre-intuitif. L'épaisseur de l'isolant détermine la vitesse à laquelle l'information va circuler. Plus l'isolant est épais, plus le neurone conduit vite. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est expliqué dans le livre, c'est contre-intuitif.
Une sorte de tuyau à diamètre variable dans lequel le fluide circule à une vitesse qui dépend de la taille.
Si on veut. Mais ce n'est pas un fluide, c'est la surface du neurone. Mmh. Voilà. Donc, si vous mettez ça ensemble, vous voyez, le problème de mes collègues et moi-même, hein, dans toutes mes publications, quand vous faites de la neuroimagerie avec l'IRM, vous voyez des tas de régions qui s'allument dans le cerveau et vous dites, la région A, la région B, elle est allumée en même temps. Mais pas du tout. C'est comme vous êtes en train de regarder le ciel le soir, quand vous regardez des étoiles, on sait aujourd'hui que les étoiles, il y en a une qui vient d'il y a un million d'années, l'autre de 3 milliards d'années, c'est pas simultané, il n'y a pas de simultanéité, parce que il faut le temps à la lumière de venir chez nous. Eh bien, quand une région à l'avant du cerveau est activée, comme on la voit, et à l'arrière du cerveau est activée, elles ne savent pas toutes les deux qu'elles sont activées. Il faut tenir compte du temps qui existe entre les deux. Autrement dit, la simultanéité n'existe pas dans le cerveau. C'est pour ça que le concept d'espace-temps d'Einstein pour l'univers, on peut faire du copier-coller pour oui, décrire là, cerveau.
Là, je vous vois venir.
Ah bon ?
Oui, vous vois venir. Ce que vous dites, ça suffit à justifier qu'on puisse avoir une lecture presque relativiste,
c'est ça,
d'un espace-temps qui serait propre au cerveau,
c'est ça,
et dont la dynamique serait la même que celle pour l'univers, sauf que
la vitesse est beaucoup plus lente.
C'est pas la vitesse de la lumière, c'est une vitesse un peu variable, donc
et qui est en plus variable.
Mais qui a une limite.
Il y a une vitesse limite qui est de l'ordre de centaines de mètres par seconde, si on veut dire, mais elle est variable selon la taille des axones. Mais dans les simulations que je montre dans mon livre, j'en tiens compte, et bien entendu. Autrement,
vous nous avez expliqué, Denis Le Billon, comment le cerveau finalement code l'espace.
Donc il code le temps de la même manière, à savoir le temps est imbriqué dans l'organisation du cerveau. Autrement dit, on parle de connectome, vous avez cité Obama tout à l'heure, mais en fait dans son projet, le Brain Initiative, il parle du connectome cérébral, c'est-à-dire l'ensemble des régions cérébrales et surtout de leurs connexions. Ces connexions aujourd'hui, on les voit avec une méthode que j'ai eu le bonheur d'inventer il y a presque 40 ans maintenant, qui s'appelle l'imagerie du tenseur de diffusion. Qui repose sur l'autre article d'Einstein du 1905 sur le mouvement brownien et la diffusion, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, enfin c'est aussi un travail lié à Einstein, qui permet de faire des images, vous avez sûrement vu ces images, des images magnifiques en couleur, en trois dimensions, du câblage intracérébral. Aujourd'hui, vous allez dans le scanner IRM, en un quart d'heure, on vous obtient votre...
Il y a plusieurs planches dans votre livre.
Oui, c'est magnifique.
On croirait de l'art moderne.
Oui, d'ailleurs, c'est utilisé pour faire des sacs à main, des robes, etc. Voilà. Mais bon, j'en suis vraiment très fier. C'est quelque chose époustouflant. On voit, grâce aux travaux d'Einstein, on voit le câblage intracérébral. Donc, c'est ça qu'on appelle le connectome. Donc, dans ce connectome, ce que je dis, puisqu'il y a cette vitesse limite, le temps doit être considéré comme relatif. Et donc, on a des géodésiques. Exactement, quand vous prenez l'avion entre Paris et New York, du fait de la courbure de la Terre, vous passez, c'est pas tout droit, vous passez par le Groenland. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais qu'est-ce que je fais au-dessus du Groenland, hein? Il y a beaucoup, beaucoup de passagers. Mais parce que c'est le chemin le plus court dans l'espace à trois dimensions. Eh bien, dans le cerveau, c'est la même chose. Il faut considérer qu'on a un espace-temps à quatre dimensions, temps et espace, et que les informations circulent d'une région A à une région B en suivant des géodésiques. Et ces géodésiques, c'est vous, par votre attention, qui allait les moduler. Donc, ça va très loin.
Alors, qu'est-ce que vous appelez l'attention ? Ça veut dire que vous pouvez, en fait, par votre attention, choisir le parcours.
Par exemple, je donne un exemple précis.
L'équivalent de la ligne d'univers, finalement.
C'est ça, c'est la ligne d'univers, c'est la même chose.
Mais il faut l'appeler comment ? C'est une ligne cérébrale ?
Ligne cérébrale. Dans le livre, je parle de ligne cérébrale, tout à fait. Donc, en fait, j'ai fait du copier-coller. Hein. Je suis très bon pour faire ça, visiblement.
Mais alors, est-ce que c'est simplement une analogie ? C'est-à-dire vous utilisez les concepts de la relativité générale pour dire ce qui se passe dans le cerveau ? Ou est-ce qu'il faut aller plus loin et dire que le cerveau est structuré comme l'espace-temps dans l'univers ?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple analogie. J'ai repris les équations d'Einstein, de relativité restreinte et générale, et je les ai appliquées au fonctionnement cérébral. Donc ça va plus loin. Simplement, évidemment, c'est pas la vitesse de la lumière, c'est une autre vitesse. Mais quand même, il y a un physicien français qui, dans les 50, a montré que la théorie de la relativité de l'univers d'Einstein pouvait être complètement redéveloppée sans parler de la lumière ni de la vitesse de la lumière.
Même en 1911, il y avait déjà. C'est même un papier qui a constamment été réinventé.
Donc
ça remarque Lévi-Leblanc, on parle souvent.
Bah, Lévi-Leblanc en particulier. Donc c'est pas la lumière le problème. C'est qu'il y a une constante et que le temps.
Au sens géométrique.
Donc on passe dans un milieu géométrique à quatre dimensions. Même plus de dimensions, mais on pourra peut-être en parler plus tard. Donc quatre dimensions. Et je donne un exemple parce qu'il est assez connu. Vous voyez peut-être. On est à la radio, bien sûr, mais vous pouvez peut-être voir ces images où on peut voir soit un vase, soit deux visages. C'est assez connu, hein, cette figure. Eh bien, ce qu'on montre, c'est que si on vous projette l'image instantanément, on vous dit qu'est-ce que vous voyez.
Il y a un choix qui est fait.
Vous décidez. Vous ne pouvez pas voir les deux en même temps. Hein. Vous voyez, les deux existent. Hein. C'est comme le chat Schrödinger qui est vivant et mort. On ne peut pas voir les deux en même temps. Donc, il y a une des deux configurations qui va vous sauter aux yeux. Mais ce qu'on voit, nous, sur nos images IRM, c'est fantastique, c'est que votre décision, votre pseudo-décision, je vois un visage, elle a été prise 2 secondes avant.
Avant quoi?
Avant qu'on vous projette l'image. Mais je ne remonte pas dans le temps. Vous dites pourquoi?
C'est quoi? C'est la rétrocausalité?
Non, justement. Sinon, vous allez me dire que ce n'est pas possible. Et je suis d'accord avec vous. C'est simplement que votre cerveau est en permanence en train de faire des choses. Vous voyez, là, je vous parle, je suis à la radio, mais je bouge les mains. D'accord? Bon. Vous bougez la tête. Vous faites pas attention à cela.
J'acquiesce.
Oui, mais je veux dire, c'est spontané. Ouais. Voilà. Donc, en fait, dans votre cerveau, il y a des tas de choses qui se passent. On sait aujourd'hui que, parmi ces fameuses régions, il y en a une qui détecte les visages. Voilà. Donc, cette région-là s'active quand on voit un visage. Mais elle peut être activée par chance, juste au hasard. Eh bien, quand cette image ambiguë va arriver, si cette région du cerveau était activée, vous dites, j'ai vu un visage.
Donc, c'est l'activation qui précède.
Voilà. Donc, c'est la courbure de l'espace-temps qui existait, qui fait que la géodésie qui passait par cette région qui détecte les visages était activée, était une géodésique au moment où on vous a montré l'image.
Bah, ça veut dire que l'espace-temps du cerveau, enfin son analogue, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ou l'espace-temps lui-même cérébral,
connectome, je l'appelle comme ça.
Il est courbé comme celui...
Il est courbé par l'activité des masses cérébrales. Donc chaque région qui s'active, c'est l'équivalent d'une masse. Donc encore une fois, c'est plus qu'une analogie, puisqu'on peut, donc, c'était aussi une énergie. Donc, on reprend les mêmes équations, mais qu'au lieu de parler de masse, on parle du degré d'activation de la région.
Mais donc, Denis Le Bihan, si c'est plus qu'une analogie,
oui,
si c'est vraiment une théorie,
oui,
on doit prédire des choses.
Eh ben, bien sûr.
Alors, c'est quoi les choses que vous
pouvez je finis mon exemple parce que c'est important, parce que vous avez posé la question, je réponds. Donc, on vous projette cette image ambiguë, vous dites je vois un visage, je vois, d'accord, mais ça c'est, vous l'avez pas décidé, donc la question est-ce que le libre arbitre existe ou pas, voilà. Mais ensuite, si vous décidez de voir le visage, les visages ou le vase, vous pouvez.
Après coup.
Pour ça, il faut faire un effort mental. D'accord? Donc vous allez recâbler, vous allez recourber votre espace-temps pour que la géodésique passe par cette région qui détecte les visages. Mais ce coup-ci, vous allez le faire en pleine conscience, alors qu'avant c'était inconscient. Vous voyez? Donc ce que prévoit cette théorie, c'est qu'on peut aussi atteindre la conscience, qui est en sorte liée à la courbure. Donc si vous prenez des patients dans un état végétatif, ce qu'on sait aujourd'hui avec la méthode d'imagerie de diffusion, là, on voit la connectomique, les régions qui sont connectées, eh bien, par rapport à quelqu'un qui est éveillé, quelqu'un qui est dans un semi-état végétatif a beaucoup moins de connexions. Quelqu'un qui est dans un état végétatif profond a encore moins de connexions. Mais en fait, les régions cérébrales, si le cerveau n'est pas abîmé, bien sûr, hein, si c'est une région, une cause fonctionnelle, si le cerveau est mort, il est mort. Hein. Bon, les régions qui sont à la surface du cerveau continuent leur activation. Il y a une étude extraordinaire qui avait été faite en IRM aussi, en 2006, où une jeune femme de 26 ans qui a eu un accident de voiture était dans le coma, et par hasard, c'était prémédité, ils l'ont mis dans les mains. Ils ont dit, madame, comment vous appelez-vous? Alors, il n'y a aucune réponse, rien. Mais la région de Broca, la région liée du langage, s'est activée. Madame, pouvez-vous imaginer que vous êtes en train de vous promener à votre maison? Rien, bien sûr, rien ne bouge. Et on voit dans le cerveau que les régions qui sont supposées être activées quand on se promène dans sa maison sont activées. Mais c'est extraordinaire.
C'est vrai qu'elle entend et son cerveau réagit à ce qu'elle a entendu.
Elle est inconsciente, elle est dans un état végétatif. Donc, nous, ce que l'on a fait, c'est que, si on arrive à recourber l'espace-temps suffisamment, on doit pouvoir reconnecter ces régions et réveiller des gens qui seraient dans un état végétatif. Bon, c'est de la science-fiction pour l'instant, d'accord. Mais on a quand même essayé, pas chez des humains, parce que sur le plan éthique, ce serait compliqué, mais on a essayé chez des rats anesthésiés. Donc, on a anesthésié des rats, donc c'est un équivalent d'un état végétatif, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut être très très prudent dans ce qu'on dit, pas donner de faux espoirs aux gens. Et en stimulant une région bien précise du cerveau, un tout petit noyau du thalamus au centre du cerveau, et en le modulant, en gros, avec de l'eau, pour faire gonfler ou pas gonfler les neurones qui sont là, eh bien, on reconnecte et le cerveau se réveille, le rat se réveille instantanément alors qu'il est sous anesthésie. Vous voyez? Donc, ce modèle.
Donc, ça, c'est prédit par votre modèle.
C'est prédit par mon modèle. Oui, tout à fait.
Et alors, vous parlez dans votre livre, Denis Le Billon, des couloirs du temps. Alors, c'est quoi les couloirs du temps? Et vous parlez aussi de la schizophrénie.
Oui.
Alors, comment est-ce qu'on relie ces deux sujets, qui sont différents, avec tout ce que vous venez de dire?
Alors, il faut revenir en arrière. Donc pour la conscience, celle que je vous l'ai décrite, on va aller beaucoup plus loin dans la conscience, parce qu'en fait, ma théorie va beaucoup plus loin que ça. Hein. Mais et de l'attention, donc on courbe l'espace-temps. Là, je reviens en arrière, parce que pour expliquer donc ce que vous me dites, les couloirs du temps et la schizophrénie, il y a pas besoin de ces courbures. C'est plus, entre guillemets, plus simple. On est dans l'espace-temps de la relativité restreinte.
De Minkowski.
On appelle ça l'espace-temps plat. Alors, bien sûr, les gens disent, mais c'est à quatre dimensions, comment ça peut être plat?
Mais il est plat quand même, pas de courbure.
Bon, il est plat parce qu'il n'y a pas de courbure. Voilà, faut accepter ça. Eh bien, l'univers, on considère qu'il est sain. D'accord? Malheureusement, l'humain, il n'est pas toujours. Et d'abord, l'univers, on pense qu'il est seul, il est tout seul, ce qui n'est pas forcément exact. Et les humains, il y en a quand même 8 milliards sur Terre. 8 milliards de cerveaux. Voilà. Plus ceux qui sont morts, qui communiquent toujours avec nous, hein, quand on lit leurs livres et qu'on écoute leur musique. Peu importe. Donc, si il y a quelque chose qui ne va pas dans la vitesse de communication, vous parlez de la vitesse limite, bon. Eh bien, on montre que dans certaines pathologies, en particulier psychiatriques, en particulier la schizophrénie, mais ce sera le vrai pour l'autisme aussi, l'image de diffusion, tenseur-diffusion, que j'ai inventé il y a longtemps, permet de voir que le câblage est anormal entre différentes régions cérébrales. Donc la vitesse de propagation n'est plus la même. Ça change tout. Ça veut dire que là où l'information arrive, en devant être synchronisée, elle n'en est plus. En permanence, vous avez, quand vous lisez, on se parle quand on lit, dans notre tête. Mais bon, on sait que c'est nous, mais bon, on se parle quand on lit quelque chose. Donc on sait que notre cortex préfrontal, en permanence, nous parle. Mais on ne sait pas, c'est inconscient. J'exagère, je vais simplifier à l'extrême. L'information va arriver au niveau des régions auditives, où elles vont produire une activation, voilà, que le cerveau va interpréter en disant, ben, il y a une voix. Ah, mais c'est la voix qui a été émise plus tôt. Voilà. Et donc, c'est bouclé. Donc, on sait aujourd'hui que quand vous imaginez une voix, vous activez le cortex auditif qui sert à entendre l'extérieur. Hein? Pareil pour la vision.
Donc, Denis Lumière, il reste 2 minutes.
Il reste 2 minutes.
Et je voudrais que pendant vous m'expliquiez pourquoi votre livre s'intitule « L'erreur d'Einstein »,
oui,
alors que tout votre livre consiste à montrer qu'il ne s'est pas trompé.
Absolument, c'est un peu provocateur. L'erreur d'Einstein, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui qui a dit qu'il avait fait l'erreur la plus grave de sa vie, quand, après avoir ajouté une constante cosmologique dans son équation de la gravité
en 1917
pour stabiliser l'univers, et qu'on s'est aperçu que l'univers il était en expansion, ce que prévoyait parfaitement son équation, mais il était passé à côté, il l'avait pas vu, donc il l'a retiré, en disant cette constante c'est la plus grande erreur de ma vie.
Si, il avait vu que son modèle prévoyait que l'univers était en expansion, mais ça ne lui a pas plu, donc il a bloqué cette expansion par une constante cosmologique.
C'est ça, mais l'expansion a été démontrée après, donc après, il s'est dit, c'est la plus grande erreur de ma vie. Sauf que, depuis, ça a été considéré comme ça. En 98, on a montré que l'univers était non seulement en expansion, mais que cette expansion s'accélérait, et que le moyen de l'expliquer, c'était la constante cosmologique. Donc l'erreur d'Einstein n'en est pas une, c'est l'énergie noire. On ne sait toujours pas ce que c'est, on n'a pas la moindre idée. Voilà. Et dans mon livre, j'explique que cette constante cosmologique explique, peut-être, les relations entre cerveaux, les interactions entre connectomes, c'est-à-dire nos liens sociaux, entre nous et avec l'environnement. Équation à l'appui.
Denis Le Billon, pour finir, j'ai une anagramme à vous proposer. Je voudrais savoir comment vous la lisez, comment vous l'interprétez avec votre cerveau.
Oui.
Elle a été trouvée par Olivier Garcia. Vous en avez beaucoup parlé, les biais de notre cerveau.
Oui.
Est-ce que vous connaissez l'anagramme de les biais de notre
non.
cerveau?
Non.
Eh bien, ça donne source insatiable de rêves.
Le rêve, ça, c'est quelque chose. Si je peux vous dire.
Est-ce que votre modèle s'applique au rêve?
Je pense, oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, il m'a été inspiré par un roman d'Ishiguro, prix Nobel de littérature, hein, le pianiste inconsolé, Unconsoled, c'est l'histoire d'un pianiste qui est perdu dans l'espace-temps. Je vous conseille ce livre.
Il nous faudrait 3 heures de Libéon. On est juste arrivé au premier quart de votre livre.
C'est ça. donc, ça donne envie de le lire.
Oui, c'est ça. Je vous remercie d'être venu à La Science en Question, émission proposée par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la prise de son Florent Bujon et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Je recommande la lecture de votre livre qui s'intitule, on vient d'en parler, L'erreur d'Einstein, avec comme sous-titre Aux confins du cerveau et du cosmos. Édition Odile Jacob.